Des Walkman. Mmh.
Ah, oui.
Voilà. Là, ça enregistre.
Parce que les parents veulent pas.
Et bien, du coup, Marceau, quand tu veux.
Eh bien, merci. Merci, Léa, et merci à Jean d'avoir la chance de vous retrouver ce soir. J'espère bientôt pour l'accueil et pour m'inviter à parler de cet ouvrage. Et j'avais eu la chance de rencontrer Jean, enfin, j'étais venu il y a 4 ans, de découvrir le lieu, et je m'étais dit, il faut absolument que je revienne. Et voilà, l'occasion est venue. Donc ce soir, voilà, l'idée principale, c'est de vous parler de ce livre. Qui a été publié en 2020 et en fait qui a été publié juste au moment où je suis rentré de Chine et de vous en parler, peut-être de vous lire quelques extraits. Et puis j'ai pris quelques photos, des sélections de photos des voyages en Asie et essentiellement là en Chine pour un peu illustrer ces passages en fait qui d'abord a été pour moi une expérience de vie, une aventure de vie. Ça a duré en fait 10 ans, et en fait c'est un peu le résumé de ce livre. En fait. Ce livre est un peu un résumé de ces 10 ans de vie.
10 ans en Chine,
t'as oui, pensé? C'est ça, voilà. Ah, oui.
Ouais. À la suite?
C'est ça, ouais, de 2009 à 2019, ouais.
Oui.
Ouais, non-stop. Ouais. Bon, je suis rentré quand même des fois en France, mais j'étais principalement, mon logis était là-bas.
Et au sein de Chine?
Alors, j'étais principalement à Shanghai, et après j'ai beaucoup voyagé dans le Yunnan, dans l'ouest de la Chine aussi, le Sichuan. Bon, voilà, c'est un peu ce que je vais décrire un peu comme parcours. Alors, ce que je vous propose, comme, je sais pas, après vous avez des habitudes, vous pouvez, m'interrompre et me poser des questions. L'idée, ça va être un peu improvisé. L'idée, je me disais en premier temps, c'est reprendre juste la structure de l'ouvrage et voilà, vous partager comment c'est venu, comment ça a émergé. Puis ensuite, d'illustrer avec quelques photos et puis en discuter avec vous, si ça vous va. Quoi, voilà. J'ai compris que de toute façon, on avait trois quarts d'heure, on se prend un petit temps. Donc voilà. Alors peut-être je vais commencer aussi par décrire un peu mon parcours, parce que ce livre, La danse du souffle, c'est essentiellement basé sur le fil rouge, c'est le Qigong, c'est la pratique traditionnelle du Qigong. Et le Qigong, Qi qu'on peut traduire par souffle ou énergie, Kong qu'on peut traduire par pratique ou travail. Et donc en France, on parle beaucoup du Qigong, parfois du travail énergétique. Et moi, j'aime bien la traduction qui est plus exacte, littérale, de la pratique du souffle, en fait. Enfin, pour moi, c'est une traduction qui correspond bien. De la pratique du souffle, comme la danse m'a beaucoup traversé aussi, c'est ce qui se passe dans cet ouvrage et que je partagerai avec vous ce soir, c'est que la danse a toujours été une activité très forte pour moi. Et je crois que le lien se fait là avec le cercle poétique de la soirée, c'est-à-dire que comment de ces pratiques traditionnelles, je suis revenu à des pratiques artistiques très expressives qui m'animent toujours et de plus en plus depuis que je suis revenu en France, sur la valence d'expression, de création. Et comment ces pratiques traditionnelles, à un certain point, peuvent nourrir en fait, ce travail d'expression, d'improvisation, donc par le geste, par le mouvement, et comment cela peut créer de la poésie, voilà, de la poésie gestuelle, de la poésie en mouvement. Donc j'aime beaucoup le terme de méthode mouvementée, ça me plaît bien. Je crois que c'est quelque chose que je recherche finalement dans mes stages aujourd'hui quand j'anime cette valence de pratique de Qigong vers la danse. Comment on crée finalement les situations les plus belles pour moi, que ce soit justement le point commun entre du Qigong, de la danse, du Tai Chi Chuan peut-être qui est plus connu. C'est la poésie que ça va dégager en termes de visuel. Quand on regarde un pratiquant qui bouge, il y a une espèce de douceur, de calme qui émane. Et puis aussi en termes pas seulement de visuel, mais peut-être de sensation, par empathie, une espèce de calme qui peut s'installer quand on vient de pratiquer ces gens, un rythme lent. Ça installe un rythme aussi interne très particulier et qui déjà crée une modification de conscience, ou quand même un changement dans l'attention et la perception du corps et de son corps. Voilà. Alors peut-être
C'est accompagné de musique, ces danses, ou c'est uniquement la danse sans son?
Oui, oui, alors quand je parle, là je parle des activités que j'ai fait avant de partir en Chine, jusque ça, que ça a été l'évolution aussi, ça m'a suivi en tout le trajet. Quand je parle de ces stages qui vont vers la danse, effectivement c'est toujours en musique, enfin toujours, on peut le faire en silence aussi.
Le Qigong, il y a de la musique aussi?
Le Qigong, non, pas forcément.
Ah, oui.
Après... j'ai une petite vidéo là d'un groupe de tai chi à Shanghai. Peut-être que je peux faire ça, commencer. Alors, vous illustrer, voilà, parce que c'est en musique, vous allez voir l'ambiance qu'il y a dans un parc. Alors, j'avais mis ça c'était une pratique d'introduction, enfin une photo d'introduction. C'est quand on était plus dans la mode, le mode créatif, on était sur le band. Donc, c'est la berge de Shanghai en fait. Voilà. Et là, on était dans un process de création plutôt. On avait repris des costumes. J'avais une amie, Kathleen, qui est revenue en France aussi depuis, qui avait travaillé sur des costumes aussi de l'époque Han. Donc, l'époque Han, c'est ces costumes avec des longues manches. Enfin, voilà, c'est des costumes avec des très très longues manches et très longs. Des voiles qui cachent le corps, en fait, en tout cas le mouvement, mais qui créent du mouvement quand ça bouge. Voilà. Donc, je trouvais ça très intéressant. Alors, je vais commencer par peut-être cette petite vidéo. Alors, je suis désolé, c'est un peu artisanal du coup, parce que je vais vous montrer. Mais voilà. Alors, ça. Hop, je le charge, j'imagine on monte un peu le son. C'est plutôt aussi pour l'ambiance sonore, vous allez voir, parce qu'on parle de musique. Alors là, c'est pas de la musique à proprement parler, mais vous allez voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un groupe que j'ai suivi pendant quelques années.
C'était à Shanghai, ça?
Ouais, ça c'est dans le parc Wushu qu'on lui a, à Shanghai.
Mais c'est bon parce qu'il y a des gens qui se promènent, qui passent. Alors, qui ne regardent même pas.
Vous avez un groupe qui pratique. Vous avez effectivement un foisonnement de gens qui gravitent autour. Qu'est-ce que vous entendez aussi?
Les chants.
Les chants. C'est des chorales qui est juste à côté.
Ouais. C'est pas des débutants là. En plus,
là, c'est des pratiquants déjà avancés. La forme est assez compliquée. Hein, vous remarquez, c'est une forme très spéciale, très dansante pour le coup.
C'est une lenteur en même temps.
Oui. Et qui est lente, mais déjà assez rapide en fait. Alors ça, c'est du tai chi.
C'est du tai chi.
Voilà, le dos assez court, tu vois, c'est pas mal, là, c'est bon. Donc là, ils sont en train de dérouler toute la forme. J'aime beaucoup parce que c'est l'une des premières expériences qui m'a marqué, moi, en Asie. Et qui est vraie pour la Chine et pour tous les pays d'Asie où je suis allé, au Japon, en Indonésie. À Taïwan, la vie des parcs, ils vivent l'espace public.
Et ils sont habitués à cohabiter comme ça avec leurs différentes activités, dont le bruit des parcs.
Oui, alors c'est ça qui est très remarquable et parfois troublant au début, cette ambiance, ce foisonnement de bruit, de son, et quelque chose effectivement qui m'a un peu... pas bouleversé, mais en tout cas qui m'a surpris, c'est que venant de France où j'avais déjà commencé en fait la pratique du Qigong, j'avais appris comme on peut l'apprendre aujourd'hui ces pratiques-là, c'est-à-dire qu'on commence dans une école, j'ai commencé avec un professeur à Paris qui venait de Shanghai, voilà, on pratique dans une salle et on a besoin souvent dans ces pratiques qui sont concentrées de silence. Et là, on arrive dans ces parcs, le voir bouger avec ces gens qui gravitent autour. Ce bruit incessant, ce brouhaha, mais c'est totalement perturbant en fait pour se concentrer, en tout cas tel qu'on nous on le voit. Et c'était un premier exemple de choc culturel, mais en tout cas de décalage culturel, comment on vit ces pratiques. Ces pratiques, souvent en Asie, dans ce foisonnement de vie en fait, qui est permanent dans les parcs le matin. C'est-à-dire que c'est pas juste là, on n'était pas juste le dimanche matin, hein, c'est tous les matins. Alors c'est vrai que le week-end c'est vraiment, alors là c'est bondé, mais tous les matins c'est plein, ça bouge dans tous les sens. Et en fait on est totalement immergé, et c'est la première remarque que je me suis fait. Je venais observer, d'abord je venais plus avec une démarche ethnographique, donc je veux observer, suivre. Et en fait, j'ai rapidement que j'étais un intrus parce que j'observais en fait. Tout le monde faisait quelque chose. Tout le monde était en train de pratiquer sauf moi. J'observais, j'ai fait non, bon, ben, ça va pas le faire. et en même temps, j'avais très envie de pratiquer. Et donc, je me suis vite glissé dans des groupes. Et c'était la meilleure manière en fait de participer, en fait, juste d'être dans le flux de ce qui se passait, le flux de la vie. Voilà, donc c'est un premier aspect, je trouve, important. Quand on vit ces pratiques en Asie, cette espèce de, je dirais, de chaos, en fait, de chaos qui se trouve, qui est, ouais, de surprise, en fait, quand on pratique comme ça dans un espace public, parce qu'il y a plein de regards qui se posent. Des fois, il y a des gens qui viennent interrompre, qui viennent sous votre nez, qui sont là, qui regardent, qui vérifient si vous êtes... Enfin, c'est totalement déstabilisant. Et en fait, c'est tellement habituel, voilà, dans ce milieu, au bout d'un moment, on s'habitue. Et en même temps, c'est un très bon exercice parce que en fait quand, c'est vrai que quand on vit ce mode-là, sur ce mode-là, en tout cas cette pratique-là, il y a déjà dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose qui se crée, qui est différent. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une expérience, même pas que du Qigong, mais des pratiques introspectives. Alors ça peut être la méditation, ça peut être d'autres pratiques qu'on connaît comme la sophrologie, que je vois aussi à la fac de médecine, enfin des méditations de pleine conscience, enfin toutes les activités ou les pratiques somatiques aussi. Voilà, on aime bien le faire dans un cadre calme. Voilà, ça paraît évident. Et ben en fait, c'est pas l'évidence dans un milieu asiatique où finalement plus ça va être, plus il y aura du monde, plus ça sera foisonnant, plus ça va être un signe de vie. Et au contraire, très motivant en fait pour pratiquer ensemble. Alors, il y a des moments vraiment de coordination très forts où là, effectivement, on est tous concentrés ensemble. Et après, autour, si c'est un peu chaotique ou pas, bah, tant mieux en fait, ça vient nourrir un peu tout ça.
Juste, je ouais. comprends pas bien, oui. les vraiment des gens qui venaient que s'arrêter, qui oui. regardent, qui oui. vérifiaient oui, oui. si le mouvement était oui. bon, c'est ça?
Oui, oui.
C'était plus bien. En connaisseurs ou en...
Oui, c'est des fois, et des ah. fois, des personnes curieuses, c'est-à-dire des gens... Il y a un rapport aussi... alors ça, c'est là, on rentre dans la sphère de la question de l'intimité. Où est-ce qu'on place, nous, l'intimité? Et est-ce que dans ce milieu-là, où est-ce que se place l'intimité, en fait, du corps? Et effectivement, alors ça peut être soit des gens qui connaissent, qui sont experts en la pratique, qui viennent regarder... Parce que des groupes, il y en a comme ça à tous les coins du parc. En
il y a
fait.
Des rendez-vous, des gens, ils donnent rendez-vous pour pratiquer.
C'est ça.
Ou c'est boule de neige, plus ça vaut, enfin, plus du moins que ça intéresse, plus ça vaut aussi. Enfin,
Eh bien, c'est. Ouais, en fait, c'est. Quand avec l'habitude, on voit que chaque groupe a son petit territoire. Ouais, donc, on va à chaque fois, tous les matins, on va entre selon si c'est l'été, entre 7h et 9h, on sait qu'on trouvera ce groupe-là à cet endroit-là. Il y a un marquage un peu tacite. Sur le territoire du parc. Voilà. Et effectivement, et des fois, ça peut être des personnes expertes, autant que des personnes vraiment qui en connaissent moins, qui en connaissent pas plus que je dirais, une personne occidentale qui a jamais vu ces pratiques. Quoi. Il y a aussi beaucoup de Chinois qui tout le monde ne connaît pas, en fait, ces pratiques, en fait, ces traditions. Et donc, qui ont une curiosité. Mais il n'y a pas de... Il y a un rapport à la pudeur qui est très différent, ou de l'intimité qui est très différent, et qui s'explique aussi, bon, là on rentre après dans l'évolution de la société, moi je l'ai compris rapidement parmi les étudiants aussi que j'avais à l'université, je voyais que de la première à la troisième année, ils sont 6, 4 à 6 dans la chambre, et effectivement, bon, la notion de proximité, ils la vivent tout au long de leur vie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a peu, pour la majorité des habitations aussi, ils sont habitués à vivre... à cohabiter, quoi, et parfois souvent avec les mêmes générations, donc il y a très peu de voilà intimité, ce qui explique aussi ces comportements voilà public. Voilà, donc je voulais parler de ce parc parce que ça a été moi la première expérience forte, enfin, qui m'a amené qui a été mon fil rouge pour rentrer un peu plus sur et pardon, je l'ai pas dit, mais je suis arrivé là-bas en finissant, je venais juste de soutenir ma thèse en 2008, donc sur une thèse sur l'expérience du Qigong et les états de conscience dans la pratique du Qigong. En fait, je m'intéressais vraiment à qu'est-ce qu'est l'expérience du corps quand on pratique ces techniques-là.
Et j'avais c'est une thèse dans quel cas?
Alors, c'est un laboratoire de sciences humaines. Alors, en fait, j'étais logé à l'université d'Orléans. C'était la faculté, j'étais entre la faculté des STAPS d'Orléans, c'est la faculté des sports, et la faculté d'Orsay, des sciences humaines, Donc voilà, mon directeur de thèse est en fait en anthropologie. Et j'avais un autre co-directeur à Clermont qui était en phénoménologie.
Phénoménologie. Ouais.
Et donc, voilà, ils m'ont guidé comme ça, sachant que mon univers, je sortais d'un cursus. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu tôt, mais c'était un laboratoire en sciences humaines, mais je sortais d'un cursus de sport, parce que je venais de passer, j'étais professeur de judo, en fait, c'était mon premier job, voilà, c'était pour commencer par le début, j'étais d'abord professeur de judo, et en voulant en vivre, j'ai voulu me former, je suis arrivé en STAPS, et c'est là que j'ai découvert la danse contemporaine et le Qigong en parallèle, et le Qigong m'a poussé en fait à faire des recherches approfondies. Et une fois cette thèse finie, je suis arrivé effectivement en Chine. En fait, on m'a conseillé d'aller faire un postdoc en Chine. Donc je suis arrivé naïvement en me disant, bon bah super, j'ai mon carnet, c'est parti, j'observe. Et voilà, et le premier lieu c'était le parc. Et puis il s'est passé effectivement plein de choses. Peut-être que à ce stade, je peux commencer à vous lire quelques extraits. Peut-être je vais commencer par le début, ou peut-être le plan. Alors le livre en fait c'est constitué de 5 parties. On peut le faire passer, j'en ai ramené si vous voulez en même temps potasser.
Ah ouais.
Et dans ce livre, en fait, je commence par les 5 parties. Il y a l'impulsion étrangère, un élan familier. Dans cette première partie, j'explique comment j'arrive en Chine, comment je pars de France. Et j'arrive dans ce contexte, effectivement, qui est pour moi une découverte.
Tu parlais la langue ?
Alors voilà, non, je ne parlais pas du tout la langue. Et les deux premières années ont été très dures, en fait. La première année très dure. La deuxième année... Voilà, difficile aussi. Et puis finalement, j'ai appris la langue sur le tas. Et puis, j'ai créé un nouveau réseau, je dirais, d'amis et de vie. Et même une famille, puisque voilà, j'ai rencontré une femme qui est devenue ma femme. Et puis, on a eu une fille. Et voilà, et tout ça s'est passé. Tout ça s'est passé.
C'est une chinoise, la dame en question.
Non, elle est de Barcelone.
Excuse-moi, ça aurait pu être une chinoise.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, c'est il fallait encore apprendre une autre langue.
Mais comme quoi, il fallait. Voilà, c'est un peu.
Il y a une gap culturelle, il fallait quand même.
Plein d'importants.
Est-ce qu'elle est dans la danse?
Elle est dans la traduction, en fait. La traduction du chinois. Et on s'est rencontrés à travers la danse, effectivement. D'ailleurs, ce livre est dédicacé à ma fille, je commence par ça, parce qu'elle elle apparaît dans l'ouvrage, parce que j'ai voulu cet ouvrage aussi, il y a un côté un peu très réflexif, comme le prolongement de ma thèse en fait, mais aussi avec beaucoup de moments de passage de vie, j'explique des moments où je joue avec ma fille dans le parc, et voilà comment tout ça s'est mêlé en fait, hein, entre les temps de vie quotidiens et puis la... Et donc c'est pour ça que dans l'ouvrage, j'ai une partie très, très expérientielle où j'ai décrit en fait tous les lieux où j'ai pu observer ces types de pratiques. Donc le parc, l'institut médical où je vous montrerai quelques photos tout à l'heure, où j'ai travaillé en fait, qui a été un lieu très fort pour moi, l'institut médical en médecine chinoise spécialisé en Qigong. Donc là où j'ai rencontré des médecins que je suivais en fait. Les temples aussi, les temples et les montagnes sacrées, qui est quand même sont des lieux encore hautement inspirants en fait en Chine, comme le Wudang, le mont Wudang, le Qingchenshan, c'est le mont Wudang, c'est un lieu que j'ai amené quelques photos de ça. Et puis voilà, passé cette étape de décrire un peu tous les lieux, j'en suis arrivé à décrire les concepts plus propres au Qigong, à ces pratiques comme le Wu Wei, ce fameux non-agir qu'on appelle non-agir ou agir sans effort, enfin bon voilà, il y a beaucoup de traductions possibles. Le Yin Yang, les cinq éléments, les cinq phases, voilà, c'est des termes qu'on entend peut-être des fois dans certaines pratiques et qui sont vraiment ancrés dans la philosophie taoïste et qu'on retrouve beaucoup en fait dans ces pratiques. Et puis finalement, dans les deux dernières parties, en fait, je fais un travail plus vraiment d'analyse approfondie sur les 8 docteurs avec qui j'ai travaillé, avec qui je coordonnais une formation dans cet institut, Et je m'attache à leur enseignement parce que c'est la deuxième expérience très forte qui m'a marqué et qui m'a conduit aussi, qui m'a ramené à la danse, c'est qu'il y avait une diversité de manières d'enseigner cette pratique. Le Qigong est foisonnant, il y a des centaines de pratiques en fait. Bon, vous avez l'image peut-être on connaît mieux le yoga, il y a beaucoup d'Indiens où il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de pratiques, des pratiques douces, des pratiques plus intenses. Le Qigong c'est pareil, il y a beaucoup de pratiques. Et il y a beaucoup de manières de l'enseigner. Et donc ça me paraissait important aussi de montrer ça, qu'en fait, selon les médecins ou les professeurs, on avait différentes manières d'entrer dans le mouvement, dans la pratique, dans le geste, dans la conscience intérieure, la perception de son corps. Et voilà, j'ai insisté là-dessus. Et puis ça mène finalement à la conclusion un peu générale de ce livre où... c'est quand je revenais à Lyon en fait. Je suis revenu à Lyon donc en 2020 parce que j'ai rencontré une médecin de Lyon qui était à Shanghai et qui était intéressée pour développer un nouveau module sur la prévention à la santé par la médecine chinoise et le Qigong. Et j'ai dit c'est parfait, ça, je cherche ça. Au bout de 10 ans je me dis il faut quand même que je rentre, c'est une piste. C'est comme ça que j'ai atterri à Lyon il y a en 2020, vraiment juste avant le Covid, d'ailleurs c'était pas volontaire, mais c'est bien tombé. Et où j'ouvre en fait ce livre sur des réflexions beaucoup plus ouvertes sur comment ces pratiques aujourd'hui viennent s'intégrer, les petites fenêtres s'ouvrent dans le monde, dans une faculté de médecine, comment j'ai été amené à enseigner ça dans des festivals de danse traditionnelle, dans plein de milieux en fait, où on voit ces pratiques transverses en fait nourrir des activités. Alors qui peuvent être plus du soin dans l'institution traditionnelle qu'on connaît, ou plus encore une fois dans le monde artistique, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et d'une manière plus générale aussi, comment ça vient informer, et je l'espère, enfin donner des outils pour être plus autonome vis-à-vis de notre santé, de prendre soin de nous. Quoi. Voilà, c'est des outils d'autonomie, je trouve. Et voilà. Alors, j'ai mis un petit marque-page. Là, je vais commencer par ça. Allez. J'ai intégré l'équipe de l'Institut de recherche de Qigong en 2012, après avoir convenu lors d'une réunion de la mise en place d'une nouvelle formation internationale ouverte aux étrangers. Une première dans ce lieu. Sur la centaine de personnes étrangères que j'ai accueillies jusqu'en 2019 à l'Institut de recherche de Qigong de Shanghai, j'ai rencontré presque une vingtaine de nationalités différentes. Français, russes, estoniens, anglais, américains, japonais, espagnols, italiens, belges, mexicains, équatoriens, brésiliens, etc. Dans le cadre des stages internationaux que j'ai organisés avec les médecins chinois locaux, les apprenants venaient avec des intérêts divers mais communs. Ces motivations convergeaient avec celles que j'avais déjà identifiées lors de mes recherches de thèse avec les pratiquants en France. L'amélioration de sa qualité de vie et de sa santé, la remédiation à des douleurs ou à des maladies chroniques, et la compréhension et la maîtrise des relations entre le corps et l'esprit, qui va avec l'intégration d'une sagesse incarnée dans la médecine et les spiritualités dites traditionnelles chinoises. En comparaison, les cours enseignés en chinois en semaine regroupent principalement des Chinois présents pour des problèmes de santé. Parce que là, le groupe que j'ai suivi, moi, du coup, c'était plus des étrangers qui venaient apprendre avec des médecins chinois. Et je participais aussi, évidemment, avec des cours à côté, parallèlement, où voilà, c'était juste un public chinois qui venait. Et là, très clairement, ce public chinois venait vraiment. C'était souvent dans la majorité des cas, c'était des personnes qui avaient été consultées un médecin chinois. Et le médecin leur conseillait une pratique, en fait. Voilà, ça se passait plutôt comme ça. Et donc à ce cadre, je peux vous mettre, passer une image, une illustration, peut-être. Alors, voilà une image de l'intérieur de l'institut. Enfin, ça c'est la partie clinique. Voilà, là vous avez un médecin qui est en train de, je ne sais pas si vous devinez ce que c'est. Il est en train de faire.
Qu'est-ce que c'est, non ? Un bassin ?
Il va passer. Ouais. Ok. là, il est en train de faire. En fait, il y a une personne allongée. En fait, oui. C'est une forme de massage qu'on appelle Twina. Le Twina.
Ah. Le Twina.
Voilà. Le Twina. Et vous avez là un autre docteur qui illustre un mouvement. Alors là, il est au troisième étage de la petite clinique. Là, il est en train d'illustrer un mouvement de Qigong, en train de pratiquer un mouvement de Qigong. Donc il peut ressembler, qui est déjà assez... Bon, la photographe, j'étais avec une photographe...
Oui,
c'est très artistique. Alors le mouvement, c'est vraiment le mouvement authentique. Après, la manière dont elle l'a prise, il y a un côté voilà, très esthétique, en fait.
Ah oui.
Poétique.
Voilà, exactement. Exactement. Et vous avez beaucoup de mouvements comme ça dans le Qigong, mais c'est la première entrée. Comme je disais, je pense que les deux entrées avec le phénomène poétique, pour moi, c'est dans le Qigong, c'est ces mouvements qui vont être guidés par des images. Et donc souvent, là par exemple, ce mouvement, ça devait être... alors vous avez un mouvement qui ressemble comme ça, ça va être regarder la lune de chaque côté, voilà, par exemple. Et chaque mouvement, en fait, a son petit nom. Et c'est quelque chose que je trouve passionnant parce que c'est quelque chose d'ailleurs que j'explique quand je me retrouve à la fac de médecine devant les étudiants en médecine et qu'on explique avec des images, c'est-à-dire soutenir le ciel, donc soutenir le ciel, on pourrait faire un mouvement, soutenir le ciel, on a les bras qui montent, ou regarder la lune, ça a des mouvements arrondis et vers l'arrière aussi souvent. Qu'est-ce qu'on a comme notre image?
Se brûler au soleil. Se brûler au soleil.
Ouais, c'est ça. Alors j'avais l'un des premiers profs aussi que j'ai suivi, ça c'est dans le parc aussi. Lui, tous les matins, il se mettait face au soleil et il avait des mouvements comme ça, il gobait l'énergie du soleil, justement. Il mangeait l'énergie du soleil. Voilà. Et en fait, tout ce discours. Toutes ces métaphores sont assez, au début, comment dire, surprenantes. Et en même temps, on s'aperçoit qu'elles font rêver. En fait, quand on rentre dans le mouvement, là, l'image vient nous inspirer un état, une qualité. Je prends ce mouvement-là parce que c'est l'un des mouvements les plus connus en Badwajing. Voilà, quand on va dire soutenir le ciel, d'ailleurs, on pourra le faire ensemble, je vous le montre. C'est un mouvement tout simple où je vais croiser les doigts, je vais inspirer. Tout en inspirant, je vais suivre dans un premier temps du regard, les mains, et ensuite je vais aller m'étirer. Voilà, c'est un mouvement d'étirement toute la colonne. Et puis sur l'expire, je vais redescendre devant, tout dessous. Voilà. Donc c'est un mouvement, si on voulait le traduire, c'est un mouvement du tronc et de la colonne. Mais quand on le présente, on dit aller soutenir le ciel. Alors je vous invite à le faire, puis après je vous explique. On croise des sabounis, j'ai envie d'essayer.
Oui. Moi je fais ça presque tous les matins. Sans savoir, je me soutiens le ciel.
C'est pour ça que
je
suis pas les
chats. Alors ce qu'on peut faire juste, c'est bien d'avoir les deux pieds. Ouais, ah oui,
bah, moi je suis là. Moi aussi, j'ai une chaise à l'opéra. Normalement, on est censé avoir les pieds
au sol. Oui, c'est pareil. Mais là, il faut que tu te focalises sur les ischions. Voilà, sur la chaise, parce que c'est le point d'appui. Et donc ce que je vous propose, c'est. Assez simplement, vous allez monter les mains au rythme de la respiration. C'est-à-dire quand je vais inspirer, je vais monter les mains, je peux suivre du regard, je continue au-dessus de la tête, là je peux ramener la tête, le regard vers l'avant, je continue d'étirer, et puis sur l'expire, je vais redescendre les mains devant, vers l'avant, et puis je les ramène entre les cuisses, voilà, avec un vrai temps de pause et aucun effort. Okay, on recommence, et ça donne sur l'inspire, je monte, sur l'expire, je descends devant. On fait encore une fois. Je peux suivre du regard les mains qui montent. Puis je ramène le visage vers l'avant. Je m'étire tout le long, toute la colonne. Je pousse vers le ciel, puis vers l'avant. Et je relâche. Ok, ce que je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, c'est de fermer les yeux, maintenant que vous avez intégré le mouvement, et d'essayer de suivre le plus finement, finement possible votre respiration. Et pour que ça soit confortable, il faut que ce soit un effort, pas que ce soit trop lent ou trop rapide. Mais, et donc on y va, chacun à son rythme. Calmement. Vous pouvez aller vraiment jusqu'à l'étirement. C'est un tout petit peu poussé en haut, mais sans que ça soit voilà, trop forcé. Allez, on fait encore une fois ou deux pour finir. Essayez de faire ça le plus doucement possible. De finir, ramener les mains. Et je vous invite à frotter les mains ensuite. Alors ça c'est un exemple de mouvement, effectivement il y en a plein de mouvements possibles. Bon, en position assise c'est limité, mais en fait on peut en trouver plein aussi. Donc on frotte bien les mains, chaud, et on va se faire des automassages. Alors ça c'est quelque chose aussi d'assez remarquable que je voyais partout, dans le métro, dans les rues, ou même dans le parc le matin, les gens qui se tapotaient, qui se frottaient contre les arbres. C'est ce qu'on va faire maintenant. Une fois qu'on a les mains chaudes, on va venir glisser les majeurs de chaque côté du nez, sur le front, on va ouvrir le front avec les paumes, puis laisser les paumes descendre sur les mâchoires, sur le menton, et puis on repart, on laisse glisser les majeurs de chaque côté du nez entre les yeux, j'ouvre le front, je redescends sur les tempes, les mâchoires, voilà, faites ça à votre rythme. Les doigts, les paumes glissent. Ouvrir le front, masser les tempes, revenir sur les mâchoires une dernière fois. Et puis ensuite, on va laisser glisser les doigts comme un peigne magnétique qui va glisser sur le crâne, jusqu'au cervical derrière. Voilà, pareil, je fais ça doucement, je laisse glisser les doigts. Encore une fois. Et je vais venir ensuite masser mes oreilles. Je mets mes paumes sur les oreilles et je viens doucement voilà, malaxer. Et puis je vais glisser sur la nuque dans la série des automassages. Ensuite, on descend sur la nuque, on passe d'un côté de l'autre. Voilà, je masse la nuque. En même temps, je pivote la tête à gauche à droite en laissant la main glisser sur la mâchoire. Très bien. Et puis je vais masser entre la clavicule et l'omoplate, je vais masser le trapèze là, ici. Je vais même tapoter avec la paume un peu là, tapoter de la dynamique de chaque côté. Et je vais venir tapoter sur la face interne du bras. Et je reviens sur la face externe. Alors dans la perspective, en tout cas, plus énergétique du corps, on a les faces yin qui vont être les faces internes, voilà, et les faces yang, un peu, les faces externes. Donc on fait ça sur les deux bras. Et puis ensuite, on peut venir descendre sur la poitrine jusqu'au nombril. Voilà, il y a un grand canal, là, le jeune maille. On vient faire ça autour de la ceinture. Je vais décoller un tout petit peu si vous êtes proche du. Faire ça autour de la ceinture. Et puis après, vous pouvez tapoter le long de la colonne, les lombaires, si vous pouvez remonter sur les dorsales. C'est très très bien quand on reste comme ça si longtemps. C'est bien de se dire un petit. Parfait. Et puis je vous propose de masser, on appelle ça masser les reins. J'ai les deux mains qui vont faire ça, qui vont être ce mouvement-là, sauf qu'on donc on va placer les deux mains sur le bas du dos. Et je vais venir masser ouais, en accompagnant. Ouais, j'ai un petit mouvement du tronc, des épaules. Et l'idée, bon là on n'a pas froid, mais l'idée c'est un très bon exercice dès que le corps se refroidit de faire ce mouvement, de masser les reins. C'est l'un des meilleurs moyens pour chauffer le corps rapidement. Je viens chauffer le bas du dos. Et puis je viens tapoter jusqu'aux genoux à l'extérieur des jambes, sur les mollets. On ne pourra pas revenir à l'intérieur, si vous pouvez revenir à l'intérieur, mais voilà, l'idée c'est d'aller à l'extérieur, je descends sur l'extérieur et je reviens à l'intérieur. Voilà, vous pouvez faire à l'extérieur. Et voilà, ça va, ça se passe bien. Bon, alors ça c'est deux extraits d'un mouvement de Qigong et puis ensuite d'automassage. Quelles sont vos impressions quand on fait ce type de mouvement?
Agréable.
Ouais. Ça réchauffe.
Ouais, oui, oui, c'est des mouvements qui calment et qui réchauffent. Et alors, oui, je suis rentré en souvent parce que je voulais vous illustrer pourquoi on dit porter le ciel et pourquoi on dit pas ouvrir le thorax et tirer la colonne vertébrale. C'est ce qu'on aurait tendance à dire dans nos gymnastiques occidentales. Voilà. Et je trouve que c'est un premier point d'entrée en fait sur vraiment.
Mais c'est plus poétique.
Exactement. Si. Voilà. C'est plus poétique et dans cette fonction poétique, il y a vraiment une fonction. J'ai compris ça avec le temps. Je le sentais intuitivement, mais je n'étais pas capable de l'expliquer. Ces exercices sont. Il y a une fonction psychosomatique. C'est autant la manière dont on va poser l'attention qu'on va travailler le corps. Et d'avoir une image comme ça, effectivement, quand on en prend une série de mouvements et qu'on s'attache à l'image, porter le ciel, eh bien, on va avoir une toute autre manière d'aller dans le mouvement, d'entrer dans le mouvement, que de dire bon, j'étire ma colonne. En fait.
Oui,
parce qu'on va poser l'attention totalement différente. En fait.
Ça, c'est sûr.
Et ça, c'est un point fondamental. Par exemple, dans les mouvements d'après Rui Qigong, ouvrir les ailes d'oiseau aussi. Ouvrir les ailes d'oiseau. On ne pourrait pas le faire ici, mais c'est des mots comme ça, on va ouvrir. En fait, c'est pareil, c'est des mouvements d'ouverture de la cage thoracique qui, dans la fonction, vont être d'utilité. On pourrait dire rationnel, c'est vraiment faire ouvrir la cage thoracique, travailler les poumons et les travails d'équilibre aussi avec les oiseaux. Mais juste donner l'image de l'oiseau et les ailes d'oiseau, ça résume tout en fait. Déjà, on sait que dans ces pratiques-là, on sait qu'on va être par l'imitation de l'animal, de l'oiseau, on va soit être sur un travail d'équilibre, l'oiseau qui est sur le flamand, qui est sur une jambe, ou la grue, en fait, c'est beaucoup de grues, ou les ailes qui s'ouvrent. Et donc, de fait, on rentre déjà dans le mouvement par une esthétique, en tout cas une poétique du mouvement, qui fait d'ailleurs, je pense, l'attrait de ces pratiques-là. Parce que si, justement, on se mettait à faire la même pratique, avec, comme je vous dis, avec, en décrivant qu'est-ce que c'est la fonction anatomique, je suis sûr qu'il y aurait déjà une perte non seulement d'intérêt, mais en plus d'efficacité, parce que... et c'est l'une des hypothèses que je fais aussi dans l'attrait de la culture occidentale vers ces pratiques, c'est qu'on vient par ces images ouvrir les perceptions du corps, à travers une image, on vient ouvrir l'attention et la perception d'une autre manière. Je prends l'exemple aussi du tigre. Il y a beaucoup ces images animales sont peut-être les plus simples. Vous avez le tigre aussi qui va lancer les pattes du tigre avec le regard. Juste cette image de l'imitation animale va aussi inviter très rapidement à avoir un regard assez appuyé, enfin voilà, comme un tigre quoi. Alors que si on se met à décrire le mouvement, faites les pattes, faites le regard, on n'aura pas, à nouveau, on n'aura pas le même résultat. Donc on est sur une vision globale et qui va aussi permettre de créer petit à petit cette sensation globale du corps, cette sensation qu'on va appeler énergétique. C'est-à-dire que c'est un tout, on rentre dans une qualité de mouvement, une qualité d'attention par l'image. Et puis, de là, évidemment, c'est ça aussi qui va faire le lien plus tard ou très rapidement avec quand on s'intéresse à la danse. Alors après, ça dépend de quelle danse on parle, vers quelle danse on va. Mais c'est pareil, on peut aller vers une danse très technique, très codifiée. Et on peut aussi guider à entrer dans la danse par une exploration de l'espace, des directions dans l'espace, aussi de qualité. On peut reprendre des images comme ce que je fais déjà des fois en stage, voilà, juste bouger avec le vent ou bouger comme un, enfin tenir comme un arbre. Il y a beaucoup de postures aussi, on ne bouge pas. Voilà, il y a beaucoup de postures aussi, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de postures statiques, on fait référence à l'arbre. Et la meilleure image en fait pour entre guillemets comprendre et tenir ça, bah, effectivement c'est l'arbre. En fait, quand on voit l'arbre avec ses branches qui tient tout seul, on se dit bah oui, pourquoi j'y arriverai pas en fait, pourquoi c'est si dur. Donc voilà, et on voit encore une fois de plus que l'image nous invite à nous déplacer, enfin à déplacer le corps tel qu'on le perçoit, en tout cas dans, à ce moment de l'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire avec une vision très anatomique, ou un corps objet avec de la chair, des os, des organes. Et là je vais vous montrer maintenant une image que je trouve très intéressante, qui est une image taoïste. Voilà, alors, peut-être que je le mette en gros plan, qui s'appelle le paysage intérieur. Alors c'est bon, là ça va être un peu, donc je vais faire tourner si vous voulez. Bah, si vous voulez, vous pouvez faire tourner. Et donc ce paysage intérieur, c'est une représentation pour le coup du corps assez particulière, où il n'y a pas de corps en fait. C'est juste des images, des éléments naturels. Et ça c'est le propre alors d'une certaine pensée traditionnelle et ancienne en Chine, mais aussi on la retrouve, qui n'est pas que asiatique, on la retrouve au Mexique. Alors moi j'ai peu étudié, mais certains anthropologues font le parallèle avec la culture mexicaine, en tout cas ancienne, c'est-à-dire par exemple les Incas, les civilisations anciennes, où le corps est souvent représenté par autre chose que, enfin, des éléments naturels. En fait. Donc on fait une analogie. Et là, pour le coup, dans cette image que vous faites tourner, c'est peut-être au premier coup d'œil, c'est difficile de voir ce qui se passe, mais vous pouvez repérer peut-être une rivière qui coule. Et en fait, la rivière, c'est la colonne vertébrale. Voilà. Vous avez la tête en haut et le bassin en bas. Vous avez cette image, vous avez vu. Vous avez cette colonne qui est représentée par la rivière. Vous avez ce petit lac au niveau de la tête. Vous avez ce petit enfant au niveau du cœur. Vous avez l'estomac. Vous avez le bœuf. Et le paysan au niveau de l'estomac, oui. Et vous avez les roues à eau qui en fait qui sont l'image des reins qui font le traitement, oui, des os en fait, voilà.
Oui.
Et donc vous voyez que ces images qui en quelques siècles en fait c'est déjà une imagerie du corps et des organes, alors qui peut paraître totalement, j'ai envie de dire, fantaisiste, et en fait qui sont très précises en termes de, on a mis des roues à eau pour l'emplacement des reins, oui. On a mis un petit enfant pour l'emplacement du cœur. On a un lac très calme au niveau du mental. Enfin, c'est très intéressant.
Et les pics, c'est la tête.
Alors, les pics, c'est la tête. Alors, c'est là où ça se mêle totalement. Il y a 8 pics, et ça correspond aux 8 immortels dans la philosophie taoïste. Alors là, on bascule aussi vraiment dans la spiritualité taoïste avec les 8 immortels. Donc, et vous avez les deux personnages aussi. Cette image est intéressante parce qu'il y a deux personnages en haut. C'est Lao Tzu. Et juste en dessous, c'est le Bouddha. Alors, cette image aussi, elle est héritée de... Voilà, on pourrait commenter, retracer toute l'histoire, c'est que... Oui, ça vous évoque quelque chose?
Ben oui, en fait, ouais. Dans le bouddhisme, ils ont aussi leur arbre, là où, ouais, ils mettent les... Enfin, je ne me rappelle plus, ouais, comment ça s'appelle, ouais, mais ça m'a fait penser,
ouais,
à ça.
Ouais, ouais, ouais,
les,
ouais,
différents, ouais, niveaux, les bleus, ben, le mauvais, leurs référents, leurs...
Et puis avec aussi...
ça s'appelle système. Comment cette image?
Alors, moi, je pense, je ne sais pas, je pense aussi au foyer, aux différents foyers énergétiques qu'on va retrouver en yoga. Mais je ne sais pas si c'est de ça, je pourrais pas dire le nom de l'image. Mais voilà, pour la petite histoire, là, c'est une production d'une communauté taoïste. Et ils mettent le petit Lao Tzu au-dessus du Bouddha, parce qu'il y a eu une querelle, forcément, entre l'Inde et la Chine. C'était entre le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle. C'est l'époque où le bouddhisme commence vraiment à se diffuser en Chine. Et voilà, il y a des petites histoires comme ça, des anecdotes.
Des tensions entre le bouddhisme et...
Oui, des tensions, le taoïsme. Voilà. Alors après, c'est des tensions plus, comment dire, qu'on retrouve dans les textes, physiques, ou on retrouve des petits combats anecdotiques dans les textes, en fait.
Tu es sûr qu'il y a quand même des tensions violentes à un bon moment.
Alors après, entre le taoïsme et le bouddhisme, il y a eu des tensions internes après sur le développement du taoïsme. C'est vrai, entre le deuxième et le deuxième jusqu'au huitième siècle, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, qui peuvent être liées, c'est vrai, au bouddhisme, de cette manière. Par exemple, il y a eu même un moment, comme quoi l'histoire aussi se répète sans cesse, mais il y a un moment, une espèce de cabale dans l'évolution du taoïsme, contre des pratiques qui étaient vraiment très populaire, très chamanique, en fait, puisque le taoïsme s'est beaucoup nourri de ça. Et puis des pratiques plus qui commençaient à être plus codifiées, plus médicales, en fait. Et voilà, on voit déjà à l'époque déjà des écoles se former par rapport à ça, quoi. Donc voilà, cette image du corps. Pour parler de là, je fais des va-et-vient, voilà, entre des exemples, et puis je crois que j'ai mis à la suite j'aime bien parler de Descola. De Descola, je vous le ferai passer après. Mais je fais référence à Descola, Philippe Descola. Alors, je fais passer dans l'autre sens, si ça... Philippe Descola, qui lui... Alors, c'est un peu réducteur, mais si je fais une petite synthèse dans une diapo. Mais Philippe Descola, il a sorti un livre...
Je peux vous le renvoyer,
il n'y a pas de souci.
Avec des photos de ses qualités,
super idée.
Mais on peut le mettre sur le site, peut-être, les diapos, quoi.
Mais je peux vous envoyer un petit condensé en PDF, et puis après vous en faites ce que vous voulez. C'est des cours que je donne aussi. Ça, c'est vrai que c'est une bonne... Philippe Descola, donc il est encore en activité au Collège de France, c'est l'élève, entre guillemets, de Lévi-Strauss. Donc il a passé beaucoup de temps dans l'Amérique du Nord. Et il en est arrivé, ces quelques années, à écrire ce livre Par-delà nature et culture, qui est un très bel ouvrage où il, après qui fait débat en interne sur le problème, mais quand même qui pose des choses intéressantes. Il pose différentes ontologies, ce qui s'appelle les ontologies humaines, c'est-à-dire qu'à travers l'histoire et les civilisations, c'est vrai qu'on a eu quand même différentes manières de s'identifier en tant qu'humain. Et l'exemple qu'il prend, et moi que je trouve très parlant pour parler de ces pratiques, donc ces représentations analogiques du corps, justement lui dit que ça c'est un mode ontologique propre à la Chine ancienne, au Mexique, et puis il y a une civilisation qui s'est fait peut-être des pays d'Afrique, je ne sais plus en fait. Pardon ? Ouais. Où en fait c'est le propre de culture où il n'y a pas de. Encore une fois, il y a très peu de représentation du corps réaliste. Voilà. Contrairement à nous, notre culture, ce qu'on va appeler le naturalisme, ce qui va vraiment être la caractéristique en fait du. Depuis la Renaissance, depuis l'avènement des sciences, où avec le développement des sciences, on s'est extrait, en fait, on s'est posé comme observateur. Donc c'est-à-dire, on a pris le pouvoir aussi, la domination d'observer de loin. Et j'ai une image plus loin aussi que je montre des fois de comment notre anatomie, nous, est née, en fait, en médecine. Elle est née, je ne sais pas si vous avez l'image des grands amphithéâtres en médecine, mais elle est née des cadavres, en fait. Ces grands amphithéâtres, on ouvrait les cadavres. Donc on était spectateur d'un corps qui s'ouvrait, et la médecine occidentale, les premières images anatomiques et scientifiques sont venues de ces observations-là, en fait. Donc on a vraiment une médecine qui s'est constituée sur cette image, ce réalisme, en fait, qu'on estimait justement supérieur, et qui aussi, ça, évidemment, hein, qui a eu sa pertinence et qui a permis l'évolution qu'on connaît aujourd'hui de la médecine actuelle, mais qui a conduit quand même un champ de connaissances dit naturaliste, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est au plus près de ce qui va être naturel et réaliste. Or, pour beaucoup de cultures, en fait, comme la médecine chinoise, mais comme beaucoup d'autres traditions médicales, on va à Madagascar, on va les Navarros, etc., c'est toujours la même chose, c'est que les médecins traditionnels ne partent pas en observant les morts, mais en observant ce qui se passe quand on est vivant. Voilà, donc c'est quand même une grosse différence. Et donc, c'est des systèmes, du coup, souvent de rééquilibrage. De rééquilibrage où on va trouver alors ces éléments dans la tradition chinoise, en Inde on l'a aussi, hein, mais on l'avait au Moyen-Âge aussi, avec Hippocrate. En fait, au Moyen-Âge, on a été aussi dans cette valence très analogique, c'est-à-dire qu'on était liés, on se liait notre corps et nos humeurs au climat, aux éléments. Le sec, le froid, le chaud, l'humide. Voilà, voilà. En fait, finalement, on a aussi cette. Et encore une fois, c'est vraiment au 16e, voilà, 15e, 16e que tout ça a basculé. Et donc, ça, je trouve que c'est important de le nommer quand même, parce que ça permet aussi de relativiser et d'avoir des arguments pour se dire quand même qu'on est dans une même, les étudiants là jouent en médecine, alors moi je suis pas du tout expert en médecine, mais du coup par ce trajectoire là ça m'amène quand même à comprendre, en tout cas avoir ce regard que pour beaucoup d'anthropologues cette connaissance dans laquelle on vit aujourd'hui du corps, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai un accident, j'ai une douleur, tout de suite on a une imagerie, parce qu'on a tous vu, on a eu à l'école le corps anatomique, le système cardiovasculaire, le système squelettique, etc. Donc on a déjà une imagerie qui vient assez naturellement et qui nous paraît naturelle. Or, pour beaucoup de sociétés, il n'y a pas d'imagerie de ce type, en fait. Et on peut voir forcément, évidemment, l'utilité. Et en même temps, on peut voir la limite que ça pose. C'est-à-dire que si je reviens à pourquoi on prend ces images-là, c'est qu'en fait, quand on s'y habitue, si on revient à un terme de perception, ça nous ouvre le champ perceptif, en fait, parce que quand on fait une gymnastique ou une activité physique, on vous dit qu'on va exercer les muscles postérieurs, qu'on va renforcer la colonne vertébrale, qu'on va travailler les triceps, qu'on va étirer les articulations, en fait on est constamment égocentré sur la chair du corps, enfin sur une physicalité du corps qui est une pure construction de nos connaissances et qui a sa validité. Mais dans beaucoup de ces autres cultures, on cherche plutôt la porosité avec les éléments extérieurs, en fait. Et c'est pour ça, d'où l'usage des images, qui d'ailleurs est... alors là, je ne sais pas, du coup, moi, je ne suis pas assez... Je n'ai pas assez poussé, vous le saurez mieux que moi, mais le phénomène poétique. Mais je pense que plus on travaille avec ces images, plus on favorise une ouverture sensorielle, en fait. On développe un sens, une kinesthésie à son environnement, aux autres. Voilà, qui me paraît assez, assez intéressante. Et du coup, ça fait une bonne transition avec... alors là, tiens, ça, c'est l'illustration de... Au 16e siècle, on est au même siècle, et vous avez là d'un côté les premières toiles André Vézal. André Vézal qui fait ses premières planches anatomiques, et à gauche les premières planches dans la médecine chinoise avec les méridiens. Mais on aurait pu se trouver un autre lieu en Asie. Oui. On voit qu'on est d'un côté sur un réalisme qui est tiré sur l'observation des cadavres, et ici on est sur ce qui se passe, qu'on se ressent à l'intérieur du corps, en fait. On essaie de décrire le plus finement possible. Donc on est vraiment sur un... On a été vraiment sur un paradigme aussi du visuel, c'est-à-dire dans notre médecine, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de... Par ce qu'on voit et ce qu'on peut extraire, or, dans beaucoup de ces approches, on essaye de sentir. Ça n'a rien à voir avec le visuel, on essaie de sentir ce qui se passe. Il y a un grand débat là-dessus, et qui ne concerne pas seulement la médecine chinoise, mais toutes les médecines, en tout cas il y a une débat sur comment est venue l'imagerie de ces méridiens. Et bon, on parle d'une expérience qui s'est constituée au fil des siècles, mais effectivement c'est parti d'abord d'expériences singulières qui se sont ensuite, qui ont été testées, partagées. Il n'y a pas eu du bon, hein. Enfin au début l'acupuncture, c'était des morceaux de pierre, et puis des fois ils se blessaient, enfin bon, il y a eu des échecs, des essais, erreurs aussi, quoi. Mais ça témoigne quand même d'une évolution, d'une connaissance qui se fait par transmission d'expérience et de conscience corporelle, et qui se transmet aujourd'hui, finalement, même quand on va voir... moi j'ai été très marqué aussi en étant en Chine toutes ces années, donc d'aller voir un acupuncteur régulièrement, d'aller voir un masseur, juste d'être touché, en fait, d'être manipulée par les aiguilles, par les... comment ça façonnait aussi une représentation de mon corps interne, en fait, de sentir les piqûres et de comprendre petit à petit les circulations, en fait, qui étaient stimulées à l'intérieur. Voilà, ça, je vous donne beaucoup d'informations. Vous avez des questions par rapport à tout ça ou des choses que vous voudriez que je...
En tout cas, moi, je vois une grosse différence, c'est que vraiment, il y a... on va dire un côté, un rapport à la chose qui propose une unité, et il y en a une autre qui finalement sépare.
Oui. Oui, c'est ce que... Enfin, cette approche, alors après, ce qu'on va retrouver dans le... cette idée d'approche de santé globale, enfin d'approche globale, quoi. Après, j'imagine, parce que là-dessus je ne me suis pas penché sur la question, mais vous avez plus de réponses que moi, mais je pense aussi que le point commun, heureusement, entre la CIGRS dans le cadre de la médecine, en fait, d'un médecin chinois et puis d'un médecin généraliste aujourd'hui, c'est qu'au bout du compte, la connaissance se fait beaucoup par l'expérience, dans l'expérience des relations avec les patients et de l'accumulation des expériences qui va se dérouler. Donc finalement, heureusement, ça, je pense que ça reste une partie essentielle de la construction de l'expérience du soignant, en fait, et puis de la relation. Mais il y a aussi une culture, et c'est ça aussi qui est marquant, c'est que cette culture du soin, elle est vraiment, pour moi, c'est évident qu'elle est culturelle, dans le sens où je me rappelle, il y a 20 ans, je commençais donc le Qigong, etc. Je faisais ça dans le parc, ça faisait vraiment, ça faisait très bizarre qu'on était vu du coin du regard. Bon, comme on l'avait vécu pour beaucoup de pratiques, à certains moments, leur temps d'intégration, c'est pas ce que c'est, on a une espèce de suspicion, de méfiance, on ne sait pas d'où ça vient, comment que c'est fait. Et puis quand ça s'est popularisé, quand on connaît, ok. Le fait d'être en Chine, qu'on pratique ou pas, en fait, juste d'être dans un milieu où ça s'institue, je vais dans la clinique d'acupuncture où je voyais des centaines de personnes qui passent dans le couloir avec des aiguilles partout. ça devient tellement banal, en fait. Il y a une espèce de... Que d'un seul coup, en fait, ça... Par empathie, en fait, on se sent totalement baigné. On voit que c'est quelque chose de partagé qui fait du sens pour beaucoup de gens. Et on voit que, de fait, même l'efficience, parce que l'efficience du soin, dans le sens où... Même si on n'a pas été éduqué peut-être à l'acupuncture, le fait de le recevoir et ensuite de sortir dans la rue, d'en parler à quelqu'un qui connaît, et puis bah, comme ça rebondit, le soin continue après dans l'échange qu'on peut avoir avec d'autres personnes, en fait, parce que tout le monde connaît ou quelque chose à dire là-dessus. Et je pense que ça participe à favoriser, à donner du sens, en fait, pour quand on reçoit l'acte de soin, de sentir que d'autres personnes autour peuvent le partager, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas, et c'est pour ça que c'est toujours un peu plus compliqué, en fait, quand ces pratiques-là aussi traditionnelles arrivent en France ou en Europe, parce que c'est plutôt des petites niches, et puis c'est pas forcément des choses qu'on partage autant, enfin, ou alors peut-être dans le milieu social où on est, il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à ça, et donc d'être dans un milieu social où peut-être on peut moins le partager, ça va forcément un peu limiter, enfin, ça peut avoir un acte limitant, en fait, sur le rayonnement de juste le fait d'en parler, en fait, de ce que ça provoque en moi. Donc oui, il y a une grosse différence, voilà, il y a une grosse différence entre cette approche globale et après, je pense qu'heureusement, encore une fois, elle se rend compte dans l'expérience, dans le lien, quoi, qui peut se créer entre le soignant et le soigner.
Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que là déjà, ce que vous avez décrit par cette pratique, et puis même en parlant de la médecine, et ben c'est même comme si ça fait partie de leur souffle quand ils naissent, cette philosophie. Par exemple, moi j'enseigne plus à des élèves en déco.
D'accord.
Et justement, comme par hasard, demain je vais parler du feng shui. Et en fait, du coup, je vois des résonances parce que C'est une approche aussi qui n'est pas du tout occidentale. Donc c'est pour leur décoration d'intérieur, c'est vraiment en lien avec justement la recherche de cette énergie qu'elle circule, l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a aussi des images, enfin voilà. Donc je me dis, c'est vraiment comme si c'est tout leur... J'avais mangé aussi, j'avais eu la chance d'une restauratrice japonaise qui me fasse un repas très particulier. Et c'était un autre rapport aux choses. C'était, là, il faut un peu de chaud, là, un peu de tiède, là. Et donc, je me dis, c'est vraiment leur essence même et qui après s'irradie dans tout leur secteur, leur domaine, leur...
Oui, tout à fait. Il y a... Je crois que... comment dire? Après, ce que je vois aussi, c'est... Je relativise toujours après parce que ça c'est évident, voilà, quand on rentre dans ces pratiques-là, c'est évident. Après, ce que j'ai constaté, c'est vrai que ces pratiques traditionnelles, d'ailleurs l'institut où je travaillais, la directrice disait, bon, c'est une phase, là il y a une phase où ça redevient populaire, c'est redevenu populaire avec la croissance de la Chine, ça a permis de réinjecter un peu, de revaloriser un peu le patrimoine, parce que celui-là, ces pratiques traditionnelles dont on parle, en fait aussi, elles sont très... elles sont impactées par l'évolution socio-économique et politique du pays, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire, elles sont totalement bannies. Pendant la révolution culturelle, c'est totalement interdite. Au début il y a un siècle aussi, en fait, selon si la politique est moderniste ou traditionnaliste, voilà, elles vont être exclues ou pas du paysage politico-social. Après, dans les faits, dans la pratique asiatique, elle est toujours là, et c'est ça qui est fort, en fait, c'est que même chez des jeunes générations qui s'en détachent totalement, hein, ça c'est une réalité aussi, les jeunes générations que je voyais à l'université, là, d'ailleurs, à qui j'enseignais la danse, la plupart ne connaissaient pas ce que c'était, n'avaient aucune idée, ça c'était les petits cours de danse que j'avais à l'université. Alors vous pouvez peut-être faire passer...
Des étudiants chinois, du coup.
Des étudiants chinois. Et quand je leur demandais, mais alors, vous faites Qigong? Ils disaient, ah, oui, mes grands-parents, mais nous... voilà. Donc vous avez ça aussi. Alors eux, c'est des étudiants. Ça, j'avais un post-doc entre le... C'était à nouveau l'Institut d'anthropologie. Et là, j'interviens à la faculté des sports, en fait. Et donc là, j'avais des cours de danse, parce que... Mais j'allais pas arriver à donner des cours de Qigong, ça aurait été un peu bizarre. Mais il me disait, mais ce n'est pas une pratique. J'ai dit, je peux partager avec les étudiants. Du coup, comme j'intervenais dans le milieu des festivals traditionnels, je peux vous montrer quelques danses traditionnelles françaises. Et puis, françaises ou européennes. Et puis aussi de la danse un peu contemporaine, des pratiques d'improvisation. Une photo, c'est vraiment un travail d'improvisation. Alors, ce qui était totalement nouveau pour eux. Hein, c'était... et bref, ces étudiants-là, alors là, ils étaient totalement à... Ils étaient nés en dehors.
Danse d'improvisation, ça.
Ouais, il y a la photo du bal, c'est de la danse d'improvisation. Enfin, c'est une partie d'une. Je faisais travailler l'improvisation pour faire de la chorégraphie. Pour...
Et il y avait de la musique qui accompagnait.
Il y avait de la musique, ouais, tout à fait, ouais. Et cette population-là, donc, ne... Voilà, totalement déconnectée. Mais on voit aussi que. De la même manière que nous, en fait, cette génération, en fait, quand on leur disait vous voyez l'intérêt, peut-être qu'on fera ça plus tard. Et en fait, on a le même phénomène qu'on a aussi chez nous, c'est-à-dire que beaucoup reviennent à ces pratiques-là quand ils ont des maladies chroniques ou les Chinois même. Oui. Quoi. Après, il y a plein de choses aussi qui sont déjà là, en fait, et sans le savoir, qui font, c'est-à-dire. Boire de l'eau chaude tout le temps, enfin il y a un comportement alimentaire, plein de phénomènes qui sont qui même ne relient plus forcément à ces traditions là, mais qui sont dans la vie quotidienne, quoi.
Déjà qui se massent comme ça dans le métro et tout, je veux dire, c'est...
En France, on se prendrait pour des...
Les
toques,
ça a été récupéré par la danse contemporaine aujourd'hui en Europe, en fait, lors des cours. On se massait comme ça, on débute en fait en faisant...
Oui,
une bonne partie.
Ça reste...
C'est vrai qu'il y a beaucoup de...
pour la prise, la conscientisation du mouvement, pour la future chorégraphie.
Allez, je vous montre aussi ces photos de temple là. Le temple de Wudang.
On voulait enlever de faire comme ça pour nous
muscler et voir mal après on refait. Alors peut-être je vais vous lire un extrait avant de peut-être discuter. Alors j'ai un extrait sur. Ah oui, cette fameuse carte. C'est, oui, c'est vrai que j'ai une chaussette faite de carte. Alors, la carte du Neijing-Tu, donc c'est la carte que qu'on a vue tout à l'heure, hein, que j'ai fait passer. La carte du Neijing-Tu, ou littéralement carte de la vision intérieure, souvent nommée paysage intérieur, est probablement l'une des images taoïstes les plus vulgarisées en Chine ou en Europe. Elle fut gravée en 1886 dans le temple des nuages blancs de Pékin, d'après un rouleau de soie, dont l'origine reste floue. Elle représente le microcosme d'un corps en résonance avec son macrocosme. Il s'y déploie tout l'univers métaphorique du corps taoïste, mêlé à des symboles bouddhistes. Je trouve cette image fascinante, tout d'abord parce qu'elle est poétique. Cette carte du corps intérieur, représentée par des éléments naturels et sociaux, est très inspirante. L'eau tumultueuse et les roues à eau pour décrire les reins, où s'écoule la rivière de la colonne vertébrale, qui puise sa source dans le lac du palais céleste. Entre les neuf montagnes sacrées de la zone crânienne, Lao Tse trônant sagement sur le front, l'homme aux yeux de jade, le Bouddha en dessous de lui, main tendue vers le ciel. L'enfant proche du cœur, sur le champ de cinabre médian. Le champ de cinabre, c'est quelque chose qu'on reprend au journal de la pratique, on appelle ça les Tantien, champ de cinabre. Fils du vacher qui laboure avec le buffle des reins, dans la zone de l'estomac, et la femme aux rouées, au niveau de la rate, enfile des pierres gravées pour former la constellation de la Grande Ourse, symbolisant le destin d'une nouvelle vie intérieure. Cette représentation métaphorique du corps humain révèle en premier lieu que dans l'ancienne Chine, le corps n'existe pas tel que nous le connaissons en Occident. Il n'existe que par ses relations sociales et ses fonctions propres au système des vivants. Catherine Despeux explique comment la définition du corps en Chine, jusqu'à la fin de la dynastie Ming, c'est-à-dire le XVIIe siècle, début de l'influence des cultures occidentales, échappe à notre vision analytique du corps composé de membres, d'organes, d'os, de cellules. Dans les textes chinois anciens, le corps est d'abord un espace-temps défini en fonction de ses relations à l'ordre social, naturel ou étatique. Voilà.
Il y a quelque chose qui, dans la culture chinoise, il me semble, je comprends un peu, c'est la représentation, l'écriture qui est complètement différente. Bon, je donne quelques petits cours par-ci, par-là, mais je prends toujours l'exemple de l'écoute. Donc l'idéogramme écoute est composé de des yeux, du cœur, et j'ai oublié les autres, il y a plein de choses, j'ai oublié les autres pourtant, les yeux, le cœur, l'empathie et tout ça. Et c'est ça, donc on dit aux gens quand tu écoutes, quand nous on dit il faut écouter les autres, c'est simplement on n'utilise que les oreilles. Tandis que là, le mot, moi je sais que j'utilise pas mal dans mes cours pour montrer la compréhension du chinois. Alors le cas le plus bête aussi, là, ça nous intéresse moins, mais je vais quand même vous le donner. Je dis, nous, quand on parle de crise, c'est, comment on dit crise, Wichier, quelque chose comme ça, Wichier. Donc nous, pour nous, c'est une image de catastrophe. Et justement, pour les Chinois, c'est à la fois opportunité et danger. Et c'est drôle parce que je suis des étudiants chinois, et ils étaient tout à fait d'accord avec moi, qui disaient que nous, avec notre... Donc je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, enfin je sais pas, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir une sorte de complexité, mais cette complexité a aussi ses limites après, parce qu'au niveau fonctionnel, après... Parce que nous, c'est opérationnel. Je ne privilégie pas un système par rapport à l'autre. Mais nous, notre système de logique et tout, par exemple, le chinois, tu ne peux pas l'épeler. Si tu ne connais pas, ce n'est pas bon. Parce que nous, on voit papa, mais on voit. Moi, ça m'intéresse pas mal. Parce que j'utilise dans les cours que je donne.
Ting, c'est écouter. Écoute, entendre.
Tu l'as pas, là, le...
Si, si, justement, je le cherchais, le caractère. Moi, bon, je l'ai.
Ting, c'est
ça, c'est l'ancien.
Et c'est l'ancien qui m'intéresse.
Alors, ça, c'est chi,
celui-là. Ouais, c'est celui d'en bas. Ça c'est non, c'est
ça c'est Ting.
Écoutez, tu listen in English.
Celui-là, regarde Ting. Bon, alors je peux pas le mettre en gros, je suis désolé.
Et tu me l'as. Voilà. Fais voir.
C'est une application de mon conseil.
C'est celui en bas à droite, c'est ça?
Fais voir.
Non,
c'est un autre. Non,
ça c'est le
Ting. Oui, tu vas listen to hear this way.
Et non, on l'a pas là.
Voilà, c'est ça. Il y a effectivement tous les symboles. Il y a les alors, yeux, les oreilles,
la bouche,
la bienveillance qui existe et tout ça qui sont des symboles qui font.
Et alors, un autre exemple, par exemple, le signe Hao, bon. J'aime beaucoup cet exemple. Oui, pardon. Dans ce même ordre d'imagerie, qui est beaucoup utilisé, parce qu'on dit, on dit pas ok, on dit hao, hao, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc sinon c'est hao, hao, hao. Et hao, c'est le signe de. C'est une femme avec son bébé. On prend une femme avec son bébé. Voilà. Donc ça représente là, une relation la plus. La plus bonne ou la plus. Voilà, c'est le bon. Donc c'est un autre exemple d'association d'idées. Alors ce qui est intéressant, c'est toujours des associations d'idées. C'est toujours un ensemble de petits signes qui vont se retrouver. Ou la richesse aussi, c'est une maison avec un cochon dedans.
Parce qu'avoir un cochon, c'est totalement concret, il y a l'abstrait.
Mais des fois, c'est pas accessible.
Non, c'est pas concret, c'est analogique, c'est différent, tu vois.
Oui, exactement. Oui, c'est ça,
pas, c'est pas concret, c'est analogique. Oui, parce que si, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, quand tu lis les choses de l'école de Palo Alto, justement, ils développent tout un moment ce qui est analogique et ce qui est autre. Et avec de nouveau, avec l'inconvénient de l'analogie, l'analogique permet d'aller peut-être parfois beaucoup plus loin de ça. Et entre autres, c'est vrai que la poésie, on y revient, la poésie est quelque chose d'essentiellement analogique.
Oui,
mais ce n'est pas opérationnel après, donc c'est les limites des deux cas. Quoi. Et l'école de Palo Alto le développe, mais moi je suis pas. Je suis complètement un layman. Comment on dit layman en français, je dis, layman, par rapport au clair, quoi.
Je m'en connais ça.
Comment on dit
novice.
Non, par rapport au terme religieux. On dit à quelqu'un qui est. Oh, je me rappelle pas ça.
Le signe.
Excuse-moi.
L'exemple du langage, en fait, c'est un très bon exemple parce que c'est vrai que même pour ceux qu'on. Donc, si, même dans la manière de communiquer. D'ailleurs, dès qu'il y a un film qui passe, c'est toujours sous-titré, parce qu'en fait, selon les régions, il y a énormément de dialectes. Donc, ils ont beaucoup de mal à se comprendre, même des fois, quand, par exemple, ils se font répéter, ils disent, t'as bien compris, et ils se répètent sans arrêt, parce qu'il y a une association aussi de la formulation des phrases, ce mode d'écriture va avec un mode de compréhension, en fait. Oui, c'est ça, le mot profane. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de répéter pour entrer dans la compréhension et dans l'image, en fait. Dans l'image,
même dans la Chine moderne, là, d'aujourd'hui.
Et dans la Chine moderne, je le vois, des fois, en fait, quand ils communiquent, voilà, de manière intime, et je vois qu'ils se font répéter. Dès qu'on rentre dans des concepts ou de la même manière que nous, on a besoin de temps pour expliquer. Mais il y a cette association de mots, qui fait que il peut y avoir toujours plusieurs sens en fait. Donc, faut toujours relativiser le sens de la phrase avec le sens du contexte, le sens. Donc, il y a ce temps nécessaire d'imprégnation. Qui donne une opérationnalité déjà beaucoup moins efficace parce que et ça on le retrouve à plein de niveaux. C'était l'un des livres de François Julien qui disait la pensée d'or, la pensée du danse. Lui il prenait l'exemple des stratégies militaires où il disait en Occident on avait une stratégie frontale, c'est-à-dire c'est une stratégie on rentre dedans avec le plus d'impact possible. Et souvent dans la philosophie justement qui rejoint ce Wu Wei, on va essayer de toujours chercher l'acte performant avec le moins d'efforts possible. Donc on attend le bon moment. Donc on n'attaque jamais de face. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Asie, on ne dira jamais non de face. On va jamais en faire ah. Et puis on attend la situation se délite un peu et puis on transforme. Enfin, voilà. Il y a un rapport frontal qui n'est pas le même. Aussi,
oui. J'ai une petite anecdote là. Excuse un peu.
Oui, juste. Oui, du coup, donc je vais arrêter.
Tu enregistres aussi le débat.
Non, attends.